foi et turbulence.
Bonjour, Mathieu Lavigne avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de Foi et Turbulence en format magazine. Au menu cette semaine, Olivier Lefebure, chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Média Film, revient sur les grands événements cinéma 2020 en plus de nous présenter quelques titres à surveiller pour 2021. De son côté, Philippe Vaillancourt, journaliste à l'agence de presse Présence, sera des nôtres pour sa chronique mensuelle sur l'actualité religieuse. Autre chronique, celle de Jonathan Guibeau, éditeur chez Novalis, qui nous parlera du plus récent album du groupe américain Fleet Foxes. Et en ouverture d'émission, nous recevons l'historien Dominique Laperle, auteur de l'ouvrage intitulé « Faire projet d'un héritage, la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal, 1961-1988 », un livre paru en octobre dernier aux presses de l'Université Laval. Merci d'être à l'écoute et bonne émission. Le Concile Vatican II, qui se déroule entre 1962 et 1965, est certainement un épisode marquant de l'histoire de l'Église catholique. Un épisode qui continue d'avoir une forte résonance dans l'Église aujourd'hui. Certains pourraient lui reprocher d'avoir laissé de côté les femmes, d'avoir oublié rien de moins qu'une moitié de l'Église universelle. Or, ce n'est pas le cas, soutient l'historien Dominique Laperle. Dans son livre intitulé « Faire projet d'un héritage, la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal », livre publié en octobre dernier aux presses de l'Université Laval, Dominique Laperle prend pour exemple les centaines de femmes actives au sein des communautés religieuses de l'archidiocèse de Montréal, démontrant que ces femmes consacrées se sont lancées dans un processus de réception du Concile Vatican II, en espérant redéfinir leur héritage, vivre une expérience libératrice et poser les jalons d'un nouveau projet collectif. Dominique Laperle est docteur en histoire et il partage sa carrière entre l'enseignement au secondaire et à l'université. Il enseigne au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, une école privée pour filles, à Outremont, en plus d'être professeur invité à l'Institut pastoral du Collège universitaire dominicain et chercheur associé à la chaire Tillard sur la vie consacrée de ce même collège. Dominique Laperle, bonjour.
Bonjour, mon cher.
Alors, Dominique, une question un peu plus personnelle pour commencer, pour partir le bal. Vous étudiez l'histoire des communautés religieuses québécoises depuis plusieurs années. Pourquoi ce sujet plus qu'un autre? D'où vous vient cet intérêt pour cette facette de l'histoire du Québec et de l'Église?
En fait, c'est lié au lieu où j'enseigne. Le pensionnat était une œuvre d'éducation fondée par les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Et dans le processus de ma carrière d'enseignement, elles m'ont invité à écrire d'abord un petit livre sur l'histoire du pensionnat. Par la suite, j'ai écrit sur l'école de musique Vincent Lindy et j'ai publié énormément sur les sœurs enseignantes. Mmh. C'est ça qui a été le déclencheur. Et à travers ce processus-là, j'ai découvert la période charnière des années 60 et ça a été pour moi le déclic pour ma thèse de doctorat, puis éventuellement l'approfondissement de la période conciliaire.
Mmh. Et votre plus récent livre, intitulé « Faire projet d'un héritage », porte sur la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal. Alors, comment ces femmes consacrées vont réagir à l'annonce du Concile? On rappelle que l'annonce du Concile est faite par le pape Jean XXIII en janvier 1959. Alors, quelles sont les attentes exprimées par ces religieuses?
Alors, il faut bien dire qu'entre 59 et 61, elles sont au même niveau à peu près que tout le monde. Hein? C'est-à-dire, c'est une surprise, puis on attend un peu les signaux, les demandes de Rome. En 61, le cardinal Léger va entreprendre une consultation de l'ensemble des croyants de l'archidiocèse, le public laïque, les prêtres, mais aussi les congrégations religieuses. Ça, c'est assez exceptionnel. Mmh. On ne retrouve pas ça dans le monde. Alors, on a des archives formidables.
L'historien est content.
Ah oui, absolument. Et là, on a des réponses faites par une quinzaine de congrégations religieuses qui ont répondu au questionnaire du cardinal Léger. Mmh. Et on peut ainsi comprendre quelles sont leurs attentes, mmh. quelles sont leurs perceptions de la situation, qu'est-ce qu'elles aimeraient voir comme changement. Alors, pour moi, ça, c'est un matériel extraordinaire. Et comme j'avais travaillé plus particulièrement le cas des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie dans ma thèse de doctorat, je trouvais important de compléter ou de continuer ce travail-là à travers un regard plus large.
Oui.
Et c'est ce que ce livre-là me permet de faire.
Mm-hmm. Et donc, les attentes exprimées, justement, dans les réponses données au sondage, ça ressemble à quoi?
Mais ça ressemble finalement à une bande de femmes qui savent vraiment où elles vont, mm-hmm. qui sont conscientes des enjeux nouveaux, des ruptures générationnelles, des défis de formation théologique, mais aussi d'une réalité du monde laïque qui fait en sorte qu'il faut que cette Église puisse répondre aux nouvelles attentes des croyants.
Mm-hmm.
Donc, l'horizon d'attente des religieuses est celui d'un groupe de femmes qui veut justement faire signe dans un monde en transformation. Mm-hmm. Et le Concile arrive à un moment extraordinaire pour elles parce que ça répond à leurs attentes.
Mm-hmm. Et le Concile Vatican II va s'ouvrir le 11 octobre 1962. Quel rôle jouent les femmes, et plus particulièrement les femmes consacrées, dans le cadre des travaux? Comment qualifier la présence féminine au fil des travaux du Concile?
Elle est minimale. Alors, il faut bien comprendre que la moitié de la chrétienté n'est pas là.
Mm-hmm.
Il faudra attendre 1963 pour voir finalement une délégation féminine se joindre comme observatrice puis participante à certains ateliers. En tout, là, durant le Concile, on a 23 femmes qui ont participé à ça. C'est vraiment minimal.
Sur combien de personnes?
Des milliers. Hein? C'était des milliers de pères conciliaires qui étaient partout. Alors donc, on se rend bien compte qu'il y a une disproportion.
Mm-hmm.
Sauf que les textes du Concile qui sont publiés font référence à ce corps du Christ, hein, à cette unité de l'ensemble des croyants. Et les femmes sont visées par ces textes-là.
Mm-hmm.
Donc, elles vont le recevoir comme ça et vont entreprendre mm-hmm. les grandes transformations qui seront exigées par le Concile avec à travers les décrets comme Perfecte Caritatis.
Mm-hmm. Et Dominique Lapelle, je rappelle que dans votre ouvrage intitulé « Faire projet d'un héritage », vous analysez la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal. Alors, comment s'organise dans les communautés religieuses étudiées la réception du Concile? Ces femmes consacrées, est-ce qu'elles organisent, je ne sais pas, des ateliers, des conférences, des séances d'études, des volumineux documents produits par le Concile? Comment se traduit cette réception du Concile au sein des communautés?
Elles ont d'abord communié au même médium que l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'on aura, à cette époque-là, des achats massifs de télévision dans
oui.
les monastères pour
oui.
pouvoir suivre les travaux.
Il y avait une émission de télé à l'heure
exact,
du Concile.
À l'heure
entre
du Concile.
Oui.
Alors, cette émission-là sera suivie religieusement.
Oui, oui.
Il y a aussi, bien sûr, la radio. Il y a les journaux. Alors, le père Thillard, par exemple, le dominicain Thillard, va produire de nombreuses chroniques dans le journal Le Devoir. Le père Aublat-Urtubise va produire des chroniques dans le journal Le Droit. Il y a plusieurs journalistes qui vont faire un suivi très sérieux et tous ces articles seront lus par les religieuses. Mm-hmm. Dans mon livre, je fais référence aussi à un autre truchement qui est celui des revues spécialisées. Il existait donc des revues dédiées aux communautés religieuses, La vie des communautés religieuses, Donum Dei, matériel qui n'avait pas vraiment été exploité à ce jour sous cet angle-là. Alors, dans mon livre, justement, je démontre comment ces revues spécialisées sont des médiations très intéressantes pour recevoir le Concile. Et l'autre chose qui, pour moi, est vraiment intéressante à démontrer, c'est le travail des supérieurs générales pour, bien sûr, recevoir le Concile. Les lettres, ce qu'on appelle les lettres circulaires au sein mm-hmm. des congrégations religieuses, c'est un matériel extraordinaire pour aller repérer, par exemple, des références aux textes du Concile, à l'événement conciliaire, mais aussi aux enseignements qui sont soit, je dirais, sous-jacents ou qui sont clairement tirés des différents documents. Mmh. Alors là, on a un matériel formidable
oui.
qui nous permet de voir, entre 1962 et 1965, de manière régulière, comment, peu à peu, le Concile se stratifie. C'est comme un millefeuille. Hein?
Ça va percoler.
Ah oui, oui, doucement.
Oui. Ben oui.
Les sœurs le reçoivent. Donc, lorsqu'on termine le Concile et qu'on reçoit le mandat de mettre à jour les constitutions et les règles dans les congrégations religieuses, bien, il y a déjà un travail de base qui a été fait. Hein? Il y a un processus de réception qui est enclenché et les religieuses vont se lancer avec sérieux, motivation, enthousiasme dans la reformulation de leurs règles et dans le désir aussi de redécouvrir souvent le charisme de fondation puis le charisme de leur fondateur ou fondatrice.
Oui. Et Vatican II ne touche pas tous les catholiques de la même façon. Hein, vous l'écrivez dans votre ouvrage, Dominique Lapelle. Qu'est-ce qui, dans Vatican II, est reçu plus facilement, plus favorablement, disons, dans les communautés étudiées? Et qu'est-ce qui accroche? Qu'est-ce qui est plus difficile, disons, à intégrer ou à absorber?
Ce qu'il faut savoir, c'est que les apostolats sont remis à jour. Donc ça, il y a un message très clair qu'il faut mettre faut moderniser les approches auprès du peuple de Dieu. Il faut, dans le fond, réévaluer, dans le fond, les œuvres. Ce qui fait que, par exemple, pour prendre dans ce livre-là, je parle de plusieurs congrégations enseignantes, bien, la notion d'instruction va prendre un sens plus large de celui d'éducation chrétienne. Et là, on n'éduque plus à travers seulement les écoles. On éduque à travers des projets sociaux. Il faut comprendre aussi, puis je fais une petite parenthèse rapide, c'est que le Québec est frappé aussi par la Révolution tranquille au même moment. Et comme le gouvernement provincial de l'époque enclenche un processus de contrôle des sphères traditionnelles d'intervention des communautés religieuses, je fais référence ici à l'éducation, la santé, les services sociaux, bien c'est bien clair que pour les congrégations, il y a un enjeu aussi de se redéfinir à travers ça, parce qu'elles perdent le contrôle de leurs apostolats traditionnels. Oui. Mais comme le Concile et ses textes suscitent une ouverture enthousiasmante vers les signes des temps, bien elles vont les recevoir comme ça, puis elles vont devoir justement réfléchir à tout ça. Au sein des congrégations religieuses, on a bien entendu, on ne peut pas parler d'un mouvement général chez toutes les religieuses en même temps. Dans les congrégations, il y en a qui sont un petit peu perplexes, il y en a qui sont enthousiastes.
On peut penser à des femmes qui devaient recevoir Vatican II, des femmes, disons, qui étaient déjà vers la fin de leur vie et qui reçoivent Vatican II, des femmes consacrées qui reçoivent ça à la fin de leur vie. Ça doit être, c'est quelque chose, je veux dire, c'est énorme. Elles ont vécu d'une manière toute leur vie. Là, ils reçoivent Vatican II. Tout presque change.
Oui, c'est ça. On a des femmes qui, finalement, avaient toujours travaillé dans l'obéissance la plus totale, la soumission. Mm-hmm. Et là, on leur demande de changer du tout au tout. Oui. C'est très difficile. Il y en a. Puis, c'est pas une question d'âge en passant. Moi, j'ai lu des trucs dans les archives de sœurs octogénaires qui étaient extraordinairement ouvertes, contentes, entre autres, de voir la dimension plus spirituelle revenir de l'avant. Donc, de renouer, dans le fond, avec la dimension plus contemplative, parfois, de leur vie religieuse. Parce que ces femmes-là, elles avaient des horaires de PDG de compagnie tout le temps. Là. Mm-hmm. Elles se levaient aux petites heures du matin et elles terminaient ça très tard. C'était fou. Puis elles devaient conjuguer un nombre de prières vocales énorme avec des tâches quotidiennes très complexes. Alors, on ne mesure pas assez tout le travail qui a été fait justement pour rendre à nouveau la place au spirituel. Ça a été très, très bien reçu, je dirais, par la très vaste majorité. Par contre, c'est plus délicat des fois de quitter des institutions, abandonner des écoles qu'on a depuis 100 ans, 200 ans, puis de laisser ça à des laïcs. C'est une démarche plus personnelle. Puis il y a aussi tout le mouvement aussi de revalorisation de la collégialité, le dialogue au sein des congrégations religieuses qui n'était pas une habitude. Alors, pour certaines sœurs, c'est choquant de pouvoir négocier avec sa supérieure, qui n'est plus supérieure, qui devient une animatrice. Fait que oui, c'est une période de chambardement extraordinaire. Et les religieuses de Montréal, comme les religieuses de partout, vont quand même s'y livrer avec beaucoup d'honnêteté. Mais elles avaient besoin, les religieuses de Montréal, de vivre quelque chose en commun. Puis dans ce livre-là, ce que je trouve vraiment intéressant comme découverte ou comme redécouverte, c'est le fameux grand rassemblement de mars 1968 à l'Aréna Maurice Richard. Pour moi, ça, c'est symptomatique de quelque chose de formidable.
Qui réunit combien de personnes?
Écoutez, c'est unique dans toute la chrétienté. On parle de 6000 religieuses qui vont se réunir à l'Aréna Maurice Richard pendant plusieurs jours. Ça, c'est un truc là, que les gens ont oublié, ne connaissent pas. Mais de savoir que les plus vieilles congrégations religieuses actives à Montréal, la congrégation de Notre-Dame, les Sœurs Grises, les Sœurs de Sainte-Croix, ont profité d'un contexte parce qu'on était dans une année particulière sainte. On avait, dans le fond, des mandats de développer la catéchèse, la pastorale. Puis les sœurs s'étaient formées beaucoup dans ces années-là. Mm-hmm. Il y avait donc un momentum. On s'est servi de ce momentum-là pour relancer un événement qui allait permettre, et c'est les mots qu'on retrouve dans les archives, pour faire leur concile à elles. Et donc, 6000 femmes qui se réunissent ensemble, qui réfléchissent ensemble et qui écoutent aussi des présentations faites par des hommes et des femmes laïques, par des religieux, religieuses, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. La grande tristesse de tout cet aspect-là, c'est justement le fait que les archives du Congrès n'existent plus ou en tout cas semblent avoir disparu. Ah. On a des traces dans les dossiers personnels d'un certain nombre d'organisatrices, mais ce qu'on ne retrouve pas actuellement, c'est vraiment le dossier de l'ensemble des synthèses ramassées auprès des religieuses. Ça aurait été extraordinaire pour pouvoir comprendre où est-ce qu'elles étaient rendues en 68. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a donné un élan. Ça a donné un élan, un enthousiasme. Et c'est un événement charnière majeur pour les religieuses du Québec. Toutefois, en 68, c'est aussi une année, c'est une année absolument folle dans le monde occidental. Hein, quand on y pense, mai 68 en France, les événements sur les campus universitaires américains, même ici à Montréal, à l'université George William, qui est maintenant connue sur Concordia, avec les événements d'affirmation des étudiants noirs qui parlaient de racisme. C'est une année grouillante, là, vraiment, vraiment. Le FLQ qui pose certaines bombes aussi. Alors, ça va être un peu oublié, cet événement-là, puis on est aussi dans une vague de départ, un affaiblissement du recrutement. Fait que certains pourraient y voir peut-être un événement moins marquant qu'on y pense, mais pour moi, c'est le signal quand même, le témoignage que ces femmes-là faisaient leur devoir et étaient rendues à une nouvelle étape de leur compréhension de c'est quoi leur vocation et c'est quoi la prochaine étape dans leur mission.
Oui, et vous évoquez donc, les événements de Sir George William, vous évoquez la Révolution tranquille, mai 68. Comment ce contexte-là de bouillonnement partout en Occident va venir teinter peut-être la réception du Concile du côté des communautés religieuses?
C'est que dans le fond, c'est que ça va vraiment avoir un effet accélérateur. L'Église fonctionne à un rythme différent de la société civile. Donc, quand on amorce des réformes, souvent, c'est d'une certaine... La vitesse, c'est vraiment de la lenteur. Là. C'est de la tortue. Là. Mais là, la société civile se transforme à une telle vitesse qu'on a littéralement une pression énorme qui est faite par la base pour des transformations plus rapides. Et ça, on l'a vu avec les religieuses qui étaient issues du monde de l'action catholique spécialisée. Hein, le fameux voir, juger, agir. Ces sœurs-là étaient prêtes à aller beaucoup plus vite, ce qui allait à l'encontre de la vitesse traditionnelle des communautés religieuses, mais aussi d'un processus important de, par exemple, lorsqu'on revisite ces constitutions, il faut les lire, il faut attendre, il faut voir si le texte a un sens en lien avec la fondation. Puis, il faut voir si Rome accepte, parce que c'est des textes qui sont sujets à approbation romaine. Alors, on voit quand même derrière ça qu'il y aura une partie des effectifs religieux qui vont prendre la décision de ne pas continuer, de quitter, pour des raisons de vitesse. Alors, l'enthousiasme des années, du début des années 60, fait place à une certaine perplexité chez celles qui continuent, voire un découragement chez certaines. Mais le noyau dur qui continue va le faire, encore une fois, avec toujours le même enthousiasme, dans l'espérance de faire des transformations majeures pour la suite des choses. Alors, c'est pour ça, pour moi, c'est un événement qui demeure un jalon important dans l'histoire de la catholicité québécoise, ce fameux rassemblement-là. Il témoigne, dans le fond, d'une volonté de femmes et d'une décision d'un groupe de femmes de faire avancer les choses à leur manière.
Oui. Est-ce qu'il y a des différences marquées entre la réception du Concile Vatican II du côté des communautés religieuses féminines étudiées et les communautés religieuses masculines?
C'est certain que le fait que, par exemple, si on prend les jésuites, les dominicains, qui étaient très impliqués, entre autres, avec de nombreux membres qui étaient les péritiers, hein, les fameux conseillers des évêques, tout ça, c'est sûr que ces congrégations-là ont eu, je dirais, une connaissance intrinsèque du Concile beaucoup plus rapide. Ceci étant, les congrégations masculines vont vivre aussi des tensions internes, vont vivre des transformations au même rythme. Alors, je dirais qu'il n'y a pas nécessairement une grosse différence dans le processus de réception entre les hommes et les femmes. Il y a des réactions différentes. Je dirais qu'il y a plus de... Il y a une approche plus... Pas délicate, ce serait peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, qui sera en tout cas une approche plus sérieusement calme chez les communautés religieuses de femmes. C'est peut-être dans une question de nature, là, je ne veux pas m'avancer sur ça. Alors qu'il y avait peut-être des fois des débats plus tranchants du côté des communautés masculines. Mais ceci étant, au bout de la ligne, ils vivent la même réalité.
C'est ça. Et en terminant, Dominique Lapelle, plusieurs personnes vont dire que le Concile Vatican II n'est pas allé au bout de sa démarche, que le conservatisme romain a rapidement repris le contrôle. Est-ce que Vatican II a encore un avenir? Est-ce que le Concile donne et donnera encore des fruits?
Moi, je pense que oui. Il faut bien voir que Vatican II n'a pas... La réception, le processus de réception n'est pas terminé.
Pas terminé, c'est ça. Oui.
Le sens des textes continue à appeler des grands spécialistes, à nous apporter des réponses, puis les événements que nous vivons actuellement continuent à susciter de nouvelles relectures des documents du Concile. Ceci étant, les réactions, qu'elles soient conservatrices ou modernisantes, sont nécessaires parce que si on n'a pas les deux pôles, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas d'avancée. Alors, la pire des choses qui soient arrivées, c'est les crispations autour, par exemple, des Lefebvre qui n'ont pas voulu dialoguer. Mais moi, je pense au contraire qu'il est nécessaire d'avoir des forces qui proposent des visions différentes des choses pour pouvoir, après ça, arriver à un nouveau consensus. Et c'est cette idée de consensus qui était derrière le geste des communautés religieuses. Il faut absolument voir comment les constitutions ad experimentum ont été conçues par les congrégations de femmes pour saisir justement tout ce processus de lecture lente, d'interprétation, de modernisation. C'est des bijoux de textes avec des citations bibliques, des extraits des documents conciliaires qu'on a sous les yeux.
Une approche méticuleuse. Hein?
Absolument, absolument. Puis moi, je prends deux exemples, celui de la Congrégation de Notre-Dame et celui des Sœurs de Sainte-Croix. C'est deux exemples, mais il y en a tellement d'autres et je ne pouvais pas les donner tous, sinon ça aurait donné une brique de 1000 pages, puis ce n'est pas le but. Alors, si ça peut susciter l'intérêt de d'autres chercheurs vers d'autres congrégations religieuse pour nous amener des travaux comparatifs, je pense que la chose va être intéressante. Vatican II a encore beaucoup, beaucoup de choses à nous enseigner sur le plan historique, sur le plan théologique, sur le plan de la foi, et je pense que ça méritera encore d'autres ouvrages ou d'autres articles.
Mais tu sais, en une minute, j'ai goût de vous lancer cette question-là, Dominique, parce que bon, vous êtes prof d'histoire. En quoi c'est important aujourd'hui, des études comme celles que vous venez de produire, en quoi c'est... Plusieurs personnes pourraient regarder le titre de votre livre et faire « Non, c'est... pourquoi? Pourquoi? »
C'est donc, une excellente question. Faire? On fait ça parce que, dans le fond, notre problème, c'est qu'on a l'impression que le monde s'est transformé radicalement et n'a plus besoin de son passé. Il y a des générations entières, des individus qui pensent que l'histoire ne sert à rien. Or, le processus qu'on a sous les yeux, c'est un processus à la fois historique et c'est aussi un processus qu'on pourrait qualifier inspiré du Saint-Esprit si on le prend dans une perspective de foi. Et donc, il me semble qu'on a là un témoignage du grand travail fait par une génération entière autour d'un élément fondamental de son identité. Et souvent, on a l'impression qu'on dit « Ah, les Québécois ont rejeté tout à partir des années 60. » Mais je pense qu'il faut nuancer. Il y a des Québécois qui ont rejeté un paquet de choses, mais il y a des Québécois qui ont continué à vouloir témoigner de la richesse de cet héritage catholique. Et il y a une richesse, une mine d'informations extraordinaires dans les textes du Concile. Et ne serait-ce que de permettre à des gens qui n'ont pas connu l'événement de pouvoir toucher à ces documents-là à travers les événements que je décris dans mon livre. Et si ça les intéresse au point d'aller revoir les documents originaux du Concile, j'aurai réussi mon travail.
C'est un plaidoyer convaincant, Dominique Lapelle. Dominique Lapelle, un grand merci pour cette entrevue. C'était fascinant. Merci beaucoup.
Grand plaisir. Merci pour l'invitation.
Alors, je rappelle que Dominique Lapelle est historien, professeur invité à l'Institut pastoral du Collège universitaire dominicain et chercheur associé à la chaire Tillard sur la vie consacrée de ce même collège. Il faisait paraître en octobre dernier, aux presses de l'Université Laval, l'ouvrage intitulé « Faire projet d'un héritage, la réception du Concile Vatican II ». Chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal, 1961-1988. C'est toujours Mathieu Lavigne au micro de Foi et Turbulence. Restez avec nous, la chronique 7e art d'Olivier Lefébure. À mes côtés, Olivier Lefébure, chargé de projet à l'agence de presse cinéma Mediafilm et responsable de la chronique cinéma. Cette semaine, Olivier nous propose de jeter un œil sur les grands événements cinématographiques québécois de 2020, en plus d'y aller d'un panorama des films à surveiller en 2021. Olivier Lefébure, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors Olivier, le cinéma québécois aura été, comme partout sur la planète, secoué par la pandémie de COVID-19, toujours en cours. Il y a eu la fermeture des salles de cinéma, mais aussi, malgré tout, hein, disons-le, quelques beaux succès côté cinéma québécois.
Oui, une année très en dents de scie, on peut dire, qui démarre avec un premier choc, puisque le 15 mars, c'est la fermeture des salles. Donc, première fermeture, initialement pour 2 semaines, puis finalement, ça a duré jusqu'au 4 juillet.
Donc, c'est ça vrai, quand on y repense. Hein,
c'est quand on y repense, oui. Et puis là, les salles sont à nouveau fermées depuis le 1er octobre à peu près. Puis ça va aller jusqu'en février, voire plus. Alors, évidemment, fermeture des salles, mais en même temps, développement des plateformes numériques et l'apparition du premier film québécois sur Netflix, qui a fait, alors ça a fait scandale, ça a fait crier, parce que il y a des gens qui sont pour Netflix, il y en a d'autres qui sont contre les plateformes, mais bon, c'est une réalité, et le film a quand même très très bien marché, puisqu'on parle que le film aurait été vu plus de 20 millions de fois.
20 millions de vues.
Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est vu en entier, mais il y aurait au moins eu 20 000 clics sur le film. Donc, on a un double phénomène pour l'année 2020 en cinéma. Les salles qui périclitent, et on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les mois à venir sur l'avenir des salles, mais ce qui est certain, c'est que les plateformes numériques, elles, ont pris de l'ampleur. Et donc, ça a beaucoup, beaucoup développé. Puis, d'un autre côté, le cinéma québécois s'est pas non plus mal porté durant l'année 2020. On a eu donc, outre le film Jusqu'au déclin sur Netflix, ça a bien marché. Il y a aussi deux films qui ont quand même très bien marché. Il y en a un peu plus, mais il y en a deux que je soulignais. C'est Les Roses de Félix Rose, le documentaire produit par l'ONF, qui a fait plus de $200 000 au box-office. Même l'ONF était surpris, parce que bon, ils s'attendent pas, eux, à faire des cartons. Oui. Puis là, c'est un documentaire qui a très bien marché. Mais il faut dire aussi que c'était les 50 ans de la crise d'octobre, donc aussi expliquant cela.
Moins de compétition en salle aussi.
Moins de compétition en salle. Et ça, on le retrouve sur justement les autres films, comme il y a eu La déesse des mouches à feu qui est sortie fin septembre, qui a fait $186 000 de box-office à la première semaine, ce qui est énorme. Mais c'est vrai que durant toute l'année, il y a eu beaucoup moins de cinéma américain. Donc, bah, forcément, les gens se sont rejetés un petit peu sur les autres films. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, je dirais, regarder l'année avec des belles lunettes roses en se disant « c'est génial, le cinéma québécois a retrouvé, le public québécois a retrouvé les salles, a retrouvé le plaisir des films québécois ». Non, c'est une embellie très artificielle, parce que oui, La déesse des mouches à feu a bien marché, mais s'il y avait eu d'autres films en compétition. Et je pense d'ailleurs que le meilleur exemple, c'est un film qui est sorti plus tôt, qui s'appelle Suspect numéro 1, qui est un film de Daniel Roby, qui ressemble à un film américain, et qui en temps normal serait passé inaperçu. Mais comme c'était le seul film d'action et d'aventure au printemps, ben, il a cartonné.
Ah oui.
Donc, soyons...
nuançons.
Soyons assez nuancés. Faut pas être pessimiste, mais l'absence de concurrence, bah, tant mieux, à profiter au cinéma québécois.
C'est ça. Et le cinéma québécois a été marqué par quelques grands disparus. Hein. Il y a eu des disparus en 2020. Alors, peut-être mentionner quelques noms, notamment la grande comédienne Monique Mercure.
Oui, Monique Mercure, qui est décédée au mois de mai. Son plus grand rôle, d'ailleurs, c'est dans J.A. Martin un photographe, et je le souligne parce que le film est sur l'ONF, l'ONF.ca, et il est actuellement gratuit. Oui. Même chose pour Les Roses. On peut le voir sur le site de l'ONF, donc on en profite. Oui. Autre décès, on a eu Michel Dumont, qui est mort au mois d'août. Jacques Godin, qui est mort, lui, en octobre. Puis on se rappelle que Jacques Godin, un de ses grands rôles, c'est Lenny dans l'adaptation télévisuelle des Souris et des Hommes. Et puis il y a eu aussi, au mois d'avril, Claude Lafortune, qui est décédé. Claude Lafortune, que sûrement les auditeurs connaissent, puisque c'est l'animateur de L'Évangile en papier, qui nous a donc quitté, lui, au mois d'avril.
Il y a un documentaire sur Claude Lafortune.
Oui, il y a un documentaire qui vient de sortir de Tania Lapointe, qui est un... C'est beaucoup plus un reportage, un grand reportage sur à la fois l'homme et son œuvre.
Et l'année 2020, ben, s'est terminée par une sortie fracassante, disons-le, du réalisateur Denis Villeneuve, réalisateur de Dune, qu'on attend toujours.
Oui, qu'on attend et qu'on va attendre encore un bout de temps. Et effectivement, Dune, Denis Villeneuve, qui n'est pas réputé pour être quelqu'un de colérique, là, il a piqué une grosse colère parce que...
Et contre un joueur majeur de l'industrie.
Oui, et contre son patron. En fait, puisque la compagnie AT&T qui possède Warner et la plateforme HBO Max a décidé qu'en 2021, tous les films Warner qui sortiraient en salle sortiraient immédiatement sur la plateforme.
Et, en même temps.
En même temps, même jour. Oui, en même temps. Et donc, Denis Villeneuve a estimé que c'était une politique purement commerciale, uniquement faite pour faire de l'argent et sans aucun respect pour les œuvres, parce que lui, il l'a dit, son film, il l'a conçu pour le cinéma, pour le grand écran. Et c'est vrai qu'il y a des films que, oui, on peut les regarder après sur sa télé, mais il y a des films comme Dune qui, évidemment, vont être faits pour le grand écran. Donc, il a piqué une colère, il a écrit une lettre incendiaire pour se plaindre de ce côté purement
c'est
commercial.
C'est comme un manque de respect, c'est ça?
Oui, enfin, lui, il a vu ça comme un manque de respect.
Carrément. Oui. Et Olivier Lefebvre, on peut terminer cette chronique avec peut-être juste un coup d'œil sur quelques films attendus en 2021, entre autres un nouveau James Bond qui devrait arriver sur nos écrans ce printemps. C'est beaucoup des films qui devaient sortir
Bond. Oui, James Bond devait sortir beaucoup plus tôt cette année, et puis on l'attend. Puis, c'est ça, James Bond, ils l'ont repoussé parce qu'ils veulent... C'est un film qui est destiné au grand public.
Au cinéma aussi.
Au cinéma. Donc, ils veulent avoir du monde en salle. Il y a Dune qui a été reporté au mois d'octobre. Côté français, alors ça, c'est un plaisir presque coupable de ma part. C'est OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est le personnage joué par Jean Dujardin, qui est un agent secret d'une bêtise affligeante. On pourrait même employer d'autres termes. Il est raciste, il est xénophobe.
C'est vraiment un condensé de défauts.
Mais ces films, c'est les deux premiers films, et j'imagine que celui-là va être dans la même veine, sont très, très drôles. C'est en général une bonne tranche de
divertissement.
Ce qui va faire du bien.
Tout à fait. Et au Québec, quelques titres aussi?
Ah, au Québec, les deux qu'on attend beaucoup, il y a Le Club Vinland de Benoît Pilon, qui devait sortir au printemps.
Mais je me rappelle qu'on l'a évoqué d'ailleurs.
On l'a évoqué au printemps 2020, puis ensuite il devait sortir à l'automne 2020. Là, il est au printemps 2021, on ne sait pas. Très beau film, très très sympathique. Et puis, bien entendu, il y a le Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote, qui devait prendre l'affiche le 25 décembre. Puis, cinéma fermé, donc ils ont repoussé la date de sortie. Le Club Vinland, je l'ai vu, c'est très bien. Maria Chapdelaine, je ne l'ai pas encore vu, mais si on se fie au... Je connais Sébastien Pilote... Très bon cinéaste. Oui. La direction photo, c'est Michel Laveau, un des meilleurs directeurs photo du Québec. Et il a fait tournage en extérieur dans sa région. Donc, on peut s'attendre à un film d'une très, très grande qualité. Et surtout, un film qui va respecter beaucoup plus le roman de Louis Aymon. Puisque là, Maria Chapdelaine, qui dans le roman a moins de 20 ans, là, la jeune comédienne, elle a 18-20 ans. Ah oui. Donc, on se retrouve avec un personnage qui correspond véritablement au roman. Ça, je l'attends, je dois avouer. On n'a pas de date, mais je l'attends impatiemment parce que Sébastien Pilote fait partie des cinéastes les plus intéressants au Québec.
Il tourne l'hiver de façon magnifique.
Oui, puis toujours dans sa région, comme tous ses films, ses trois autres films auparavant, au Saguenay, dans sa région. Et il a eu la chance de pouvoir terminer son tournage à temps, parce que c'était au printemps, et je l'ai croisé un jour sur la rue. Il m'a dit on a bataillé les derniers temps pour pouvoir filmer les dernières scènes parce que tout était confiné.
La pandémie
s'accélérait. La pandémie démarrait, donc c'était dur.
Alors, Olivier Lefebvre, un grand merci pour votre présence en studio aujourd'hui. On jette un œil sur 2021 avec optimisme quand même.
Avec espoir.
Voilà.
Merci, Mathieu.
Alors, je rappelle qu'Olivier Lefebvre est rédacteur et chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Média Film. Il revenait sur les grands événements cinématographiques québécois de 2020, en plus de nous parler de quelques titres à surveiller pour 2021. C'est toujours Mathieu Lavigne à la barre de Foi et Turbulence. Restez avec nous, suivra la chronique actualité religieuse de Philippe Vaillancourt. Poursuivons avec la chronique de Philippe Vaillancourt, rédacteur en chef de l'agence de presse Présence Information Religieuse. On rejoint Philippe à Québec. Philippe Vaillancourt, bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Alors, Philippe, on va parler dans quelques minutes là, de la nouvelle fermeture des lieux de culte, mais tout d'abord, jetons un bref coup d'œil rétrospectif sur 2020. Au niveau de l'actualité religieuse, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette année pour le moins singulière? Qu'est-ce qui s'est le plus démarqué au cours de la dernière année dans l'actualité religieuse?
Ça, c'est une bonne question. Hein? Qu'est-ce qu'on va retenir de 2020 au niveau de cette actualité spécialisée? Je vous dirais là, tout d'abord que quand on est journaliste, on se pose la question en cours d'année. Bon, qu'est-ce qui se passe d'important? On essaie de prendre du recul. Puis c'est quoi là, vraiment d'immanquables? Et puis, bon, évidemment, il y a eu la pandémie là, avec ça a amené un paquet de micro-sujets, mais, tout regroupé sous le parapluie pandémie. Mais je vous dirais qu'il a fallu attendre assez tardivement dans l'année avant d'avoir des éléments très déterminants pour un grand nombre de personnes pour la suite des choses. Mais si on regarde là 2020, alors, ça avait commencé en janvier dernier, assez raide avec les révélations sur Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. Jean Vanier, que plusieurs considéraient comme un saint vivant, et Jean Vanier, donc, qui a eu des relations sexuelles dans des contextes abusifs, si on veut, là, ou inappropriés plutôt, avec des femmes adultes. Alors, on comprend qu'il y avait une part de légère part de consentement, mais bon, bref, que finalement, il a abusé de son statut, si on veut, et de l'ascendant qu'il pouvait avoir pour créer des relations qui ont toutes été décrites après coup par les femmes rencontrées, là, par les enquêteurs. Là. On avait mandaté des gens indépendants pour regarder ces allégations-là. Et bon, c'est ça. Alors, Jean Vanier, c'est ça. Qui est tombé de son piédestal en janvier dernier. Et ça, bon, là, on a craint un peu pour l'Arche et pour son œuvre. Et très rapidement, la majorité des gens ont su faire la distinction en disant, écoutez, comme nous tous, hein, c'est quelqu'un qui avait ses parts d'ombre. Je crois qu'on sait faire la distinction entre ce qu'il y a de bon dans l'héritage, l'œuvre, et qui vit en elle-même aussi. Hein. L'Arche, c'est, ça reste important. Et voilà. Donc ça avait commencé l'année assez raide. Par la suite, il y avait eu l'exhortation sur le synode qui faisait suite au synode sur l'Amazonie. Et alors, chère Amazonie, un texte qui, écoutez, c'est toujours un peu la même rengaine. Hein, quand il y a un nouveau document du pape, des gens déçus, oui, parce qu'on trouve que le document va pas assez loin, peu importe le sujet. On est encore là-dedans plus récemment avec la question des femmes en Église. C'est ça, chère Amazonie, est-ce qu'on ose assez, pas assez au goût de certains, d'autres saluaient les petits pas, le pape François fait les petits pas, c'est très déterminant de son pontificat. Un pape qui avance à coups de petits pas, de subtils glissements ici et là, et où on essaie de déplacer des choses, mais ça se déplace pas fort puis vite au sein de l'Église catholique. Bon. Bref, au bout de quelques jours, on n'en parlait plus du tout. Et si je dis « chère Amazonie », aujourd'hui, il y a de très, très fortes chances que la majorité des catholiques dans le monde n'aient aucune idée de quoi on parle. Bon, alors, on va regarder ailleurs. C'est là que survient le confinement qui a donné lieu, bon, d'abord à des fermetures de lieux de culte, à une fragilisation, une accélération de la fragilisation des finances dans bien des cas, que ce soit pour des diocèses, pour des paroisses, voire même pour des communautés religieuses. Il y a certaines communautés religieuses qui ont été malheureusement décimées, hein, des membres assez âgés. Il y a des milieux où la COVID est entrée et ça fait des ravages. On a tous, je crois, en tête ces fameuses images du pape François seul, place Saint-Pierre, avec les caméras braquées sur lui, qui fait une soirée de prière dans un contexte où l'Italie était, à ce moment-là, était devenue l'épicentre hein, de cette pandémie dans le monde. Et tout le monde regardait l'Italie en disant « Voyez ce qui se passe en Italie, si on ne fait pas attention, on va nous aussi se transformer en Italie. » Et la situation a tellement évolué depuis ce temps-là. Maintenant, nous sommes tous des Italiens, à certains égards. Et tranquillement, ben, on a pu rouvrir des églises et la vie a repris son cours jusqu'à... l'été dernier, le gros sujet d'église qui a fait débat, il faut le faire, là, c'est la question de la formule qui avait été utilisée pour le baptême d'un homme qui était prêtre dans l'archidiocèse de Détroit. Et pendant le confinement, son paternel lui avait apporté la cassette de son baptême, et il a réalisé, parce qu'entre-temps, il y avait eu une nouvelle instruction romaine, une décision là, rendue par la congrégation pour la doctrine de la foi, qui avait statué que non, il fallait absolument utiliser telle formule pour un baptême. Et là, il a réalisé que ce n'est pas cette formule exacte qui avait été employée dans le cas de son propre baptême. Et donc, coup de théâtre, tous ces sacrements qui avaient eu lieu par la suite n'étaient plus valides. Et ça a donné lieu à des débats, oui, intéressants, hein, c'était intéressant, mais en même temps, ça frôlait l'absurde par moments. Ça faisait, comme un ami me disait, il dit « Je trouve ça fascinant de vous voir aller, les catholiques, j'ai l'impression de regarder deux ados qui s'obstinent dans une game de Donjons Dragons sur la formule magique à employer. » Tu sais, pour des gens de l'extérieur, ça, on palpait les limites de certaines pratiques catholiques dans la manière de vivre les sacrements, de vivre les rites, etc. Et ça a alimenté beaucoup de réflexions chez les théologiens. Donc oui, a priori, on peut dire que c'était cocasse, ensuite absurde, mais en bout de ligne, il y avait aussi des leçons théologiques et pastorales à en tirer. Mais bon, on va convenir que c'est définitivement pas la nouvelle de l'année 2020.
Philippe, le temps file. Peut-être un mot sur les rapports McCarrick et Capriolo?
Exact, oui, ben c'est là où j'y arrivais. Donc, oui. Les rapports McCarrick, d'abord, sur l'ancien cardinal de Washington, donc produit à Rome, Capriolo pour les faillites de l'archidiocèse de Montréal entourant la gestion du cas de la prêtrice de Brian Boucher, qui a été condamné à de la prison pour des agressions sur des mineurs. Et là, on a senti, quand ces documents-là sont arrivés l'automne dernier, là, on sentait qu'on touchait... Ah, OK. Là, on revient dans ces gros sujets qui ont beaucoup accaparé l'actualité religieuse catholique au cours des dernières années. Et ce sont des documents très importants. Ils risquent d'avoir des suites. Oui. Et n'en déplaise aux amateurs de chère Amazonie là, et des exhortations apostoliques de tout acabit, les rapports McCarrick et Capriolo, c'est du jamais vu dans l'Église. Et ça pourrait bien devenir, donner une idée de ce qui s'en vient pour les années à venir et peut-être laisser entrevoir ce qui pourrait devenir de nouvelles normes au sein de l'Église. Dans ce sens-là, on touche là à des gros sujets de l'année 2020 qui risquent d'avoir des répercussions très longtemps sur la manière vraiment de vivre dans l'Église catholique et à l'international et au niveau local à Montréal.
Parfait, merci Philippe pour ce tour d'horizon de 2020. Maintenant, on va revenir à 2021 qui débute tout juste. Alors Philippe, le 6 janvier, le premier ministre François Legault a annoncé une série de nouvelles mesures de confinement. Depuis le samedi 9 janvier, les lieux de culte sont de nouveau fermés et ce jusqu'au 8 février. Seuls les funérailles sont autorisées, mais en présence d'un nombre limité, bon, qui est passé de 10 à 25 personnes. En tout cas, il y a eu peut-être un peu de confusion de ce côté. Est-ce que les milieux religieux soutiennent les mesures gouvernementales annoncé par le gouvernement Legault?
En majorité, oui. En majorité, oui. Ce qui ne les empêche pas de rouspéter cette bonne guerre. Je crois que l'ensemble de la population est rendue là dans la pandémie. Ouais. On ne les comprend pas toujours nécessairement. Et il faut dire que là-dessus, le gouvernement ne fait pas toujours un bon travail. Il faut oser le dire là, pour justifier certaines décisions. Alors, et quand on veut contrôler et se mêler de tous les petits détails, ben c'est sûr qu'on ouvre la porte à des comparaisons qui vont nous faire dire ben pourquoi une cathédrale gigantesque ne peut pas accueillir 25 personnes, mais qu'on peut aller s'entasser à plusieurs centaines sur des pistes de ski. Bon. écoutez, c'est la réalité de la joute sanitaire en ce moment, si on veut. Vous parliez de confusion autour du chiffre pour les funérailles. Écoutez, moi, j'irais même carrément avec brouillon, parce que il n'y a pas eu de confusion. Là. Quand le premier ministre Legault dit le 6 janvier que c'est 10 personnes et que le lendemain, moins de 24 heures plus tard, tout à coup, le gouvernement se met à parler de 25 et qui nous dit « Ah, il y a eu une confusion », je dis « Écoutez, il n'y a pas eu de confusion. » Vous vous êtes planté, c'est ça n'importe quoi. Ouais. Bon. Cela dit, c'est intéressant pour les lieux de culte parce que lors du premier confinement, c'est-à-dire lors de la première fermeture des églises au printemps, il ne pouvait rien avoir, là. Il ne pouvait pas avoir ça. Ça avait été décrié par plusieurs leaders religieux en disant « Écoutez, les maisons funéraires peuvent le faire, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? » Bon, alors là, tout le monde est sur un pied d'égalité là, au niveau des règles pour les funérailles. Bon, petit gain pour les églises ici, mais cela dit, oui, la moyenne d'âge étant en plus assez élevée là, dans les lieux de culte de manière générale au Québec, je ne connais pas grand monde qui a envie de jouer dans ces milieux-là avec les mesures sanitaires. On prend ça très au sérieux, c'est bien appliqué, mais c'est certain qu'il y a un fond d'incompréhension doublé de frustration là, qui se manifeste là, dans ces milieux-là. Mais je ne crois pas que les lieux de culte se démarquent d'une manière particulière comparativement à d'autres secteurs de la vie en société au Québec là, dans ce contexte de pandémie. Là.
Et on souhaitera peut-être un temps pascal un peu plus joyeux que
l'an dernier. Ça, c'est la grande question. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver après le 8 février? Là? Bon, évidemment, les paris sont ouverts.
On va s'en reparler.
Voilà.
Philippe Vaillancourt, un grand merci pour cette chronique, la première de l'année. Merci beaucoup, Philippe.
Merci, Mathieu. Bonne année.
Alors, je rappelle qu'on peut lire le journaliste Philippe Vaillancourt sur le site de l'agence de presse Présence au www.presence-info. .ca. Restez avec nous, suivra la chronique musicale de Jonathan Guilbeault. C'est toujours Mathieu Lavigne au micro de Foi et Turbulence. On vient d'entendre un extrait de la pièce « Can I Believe You? », chanson qui se retrouve sur l'album « Shore » du groupe américain Fleet Foxes. Afin de parler de cet album, le quatrième de Fleet Foxes, on retrouve Jonathan Guilbeault, homme de livres et de musique. Jonathan nous présente chaque mois artiste, chanson, album qui déclenche chez lui une réflexion sur la vie, la société, notre rapport à Dieu et au monde. Jonathan Guilbeault, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors Jonathan, après avoir parlé de géants de la musique américaine, hein, on a parlé de Bob Dylan, de Bruce Springsteen ces derniers mois, là on revient dans le monde du rock indépendant avec Fleet Foxes. Ce groupe est en quelque sorte le véhicule créatif du chanteur multi-instrumentiste Robin Pecknold. Peut-être commencer par nous présenter ce jeune surdoué et son groupe, Jonathan.
Ouais. Fleet Foxes regroupe 5 musiciens, mais comme vous l'avez dit, Mathieu, c'est vraiment Robin Pecknold, qui a la mi-trentaine, 34-35 ans, qui connaît le cœur. C'est encore plus vrai depuis que le batteur Josh Tillman est parti de son côté en 2012 pour devenir Father John Misty.
Oui.
Les deux bandes ont beaucoup de succès. Les deux faisant dans le folk rock un peu baroque. Father John Misty sonne plus comme Elton John. Oui. Fleet Foxes plus comme des plus comme des Beach Boys faisant l'aller-retour entre la plage et le feu de camp. Hein? Oui. Comme ça. Alors, d'un côté, la mélodie à la Elton John avant tout, de l'autre, les harmonies vocales.
Oui. C'est vrai.
Alors, le premier album de Fleet Foxes fut l'un des grands succès critiques de l'année 2008. Et depuis, chaque album est bien accueilli, bien que l'album de 2017, Crack Up, est à mon avis plus inégal, disons, que les précédents. Mais avec Shore, Fleet Foxes est de retour en force et avec un petit côté joie de vivre qu'on n'avait pas entendu depuis 2008.
Oui, et qui fait du bien dans le présent contexte. Donc, l'album Shore est arrivé dans nos oreilles le 22 septembre dernier via les plateformes d'écoute en ligne. Le tout va être disponible sur support physique en février. Jonathan Guilbeault, c'est un album apaisé. Apaisant aussi que nous propose Pecknold. Il parle ici de gratitude, d'empathie, de compassion. Bref, c'est un album qui fait du bien, comme vous le disiez.
Oui, ça fait du bien. Un album aussi serein, je dirais même lumineux, hein, en ces temps qui sont assez troublés, merci. C'est un album qui respire, qui a du coffre, les harmonies sont chatoyantes, les chansons sont construites de manière plus traditionnelle aussi, là où sur les deux derniers albums, Pecknold cherchait un peu trop, peut-être pas trop, mais il cherchait manifestement à innover, ce qui est pas, évidemment, c'est pas sans intérêt. Avec le confinement, on est déjà pas mal dans nos têtes. Hein. Alors, de retrouver des chansons moins cérébrales, c'est bienvenu. Mais je veux pas dire par là que l'album est pour autant léger comme une bulle de savon. Là, c'est même un album d'une certaine gravité. Hein. Le spectre de la mort, son caractère inéluctable est plus qu'un figurant sur le dernier album. Là. Mm-hmm. Mais au lieu de nourrir l'anxiété, la mort est comme là pour faire ressortir en creux la beauté de la vie, la grande de l'aventure humaine. D'ailleurs, la plage dont il est question dans le titre de l'album, Shore, évoque la plage qu'il a été bien heureux de retrouver, Pecknold, après une mésaventure de surf, où il a pensé que sa dernière heure était venue. Alors, c'est un peu la plage du bonheur d'être en vie, malgré la mort qui rôde tout autour.
Oui, et bon, la plage, hein, image importante chez les Beach Boys aussi. L'album fait vraiment beaucoup penser à l'album Pet Sounds des Beach Boys, vous l'évoquiez. Donc, c'est un album quand même intense, dense. En même temps, il y a une légèreté. Pecknold arrive à aller chercher une légèreté dans la complexité, dans le fond.
Oui, ben, un peu comme les Beach Boys.
Oui, hein, c'est
ça. Des dernières années, justement, là, mm-hmm. on était capable d'aborder des sujets très graves et de faire et de construire des chansons très complexes, mais avec une espèce d'allant tout naturel, avec des vers d'oreille à travers tout ça. Là, donc, c'est un savant mélange.
Oui, tout à fait. Et Jonathan, il y a une pièce sur l'album qui vous a particulièrement frappé. C'est la chanson qu'on écoutait en introduction, « Can I Believe You ». Pour vous, cette pièce pourrait bien avoir comme destinataire aussi bien l'être aimé que Dieu lui-même. Là, Jonathan, je vous avoue, j'ai écouté la chanson plusieurs fois. Là, vous allez m'expliquer comment vous voyez tout ça dans cette pièce.
Pecknold a clairement en tête les relations humaines dans cette chanson-là, avant tout. Là. Donc, d'où le cœur massif qui résonne comme la question « Puis-je te croire? » Autrement dit, la question de la confiance entre les individus était l'une des interrogations les plus fondamentales pour toute personne. Et je crois qu'il a parfaitement raison. Hein, il y a peu de blessures aussi profondes, aussi durables, aussi dommageables que celles qui proviennent d'une trahison. On se souvient longtemps quand notre confiance a été trahie. Puis être capable de faire confiance à nouveau, malgré le spectre de la trahison, c'est l'un des apprentissages les plus essentiels, les plus difficiles pour être heureux. Alors, Pecknold évoque directement cette situation dans la chanson. Il chante « I've been wounded before, hasn't let me go ». Alors, j'ai été blessé auparavant, c'est encore tout frais en moi. Mais il est aussi possible et intéressant de transposer la question sur un autre plan, à l'attention de Dieu. Dieu, puis-je croire en toi? Puis-je avoir confiance en toi? C'est une question qui peut paraître naïve pour les croyants purs et durs, évidemment, qu'on peut avoir oui, Dieu est bon, etc. Mais pour la majorité des gens, la question mérite d'être posée. Car on peut se sentir trahi par Dieu. On peut s'interroger sur ce que ça nous apporte au final de croire en lui, de chercher à faire coïncider notre désir avec son désir à lui, ou du moins ce qu'on peut en deviner à travers les Écritures, à travers l'Église, à travers les gens que l'on rencontre, etc. À travers ce qu'on appelle nos motions intérieures. Mais est-ce que tout ça a du sens finalement? Est-ce que ça ne nous place pas parfois dans des situations difficiles? Alors, on l'a dit, Pecknold ne fait pas comme si la mort ne nous faisait pas face ou comme si le bonheur allait de soi. Pecknold voit la beauté de la vie à travers le prisme même de la mort. C'est la même chose pour la confiance. Oui, La trahison est inévitable, mais c'est pas une raison pour refuser de faire confiance à quiconque désormais. Ce qui donne de la valeur à la confiance, c'est justement qu'elle n'est pas quelque chose d'assuré, qu'elle peut être trahie ou qu'elle peut prendre pour objet une illusion, un être qui n'existe peut-être même pas dans le cas de Dieu. Alors, il y a une part de risque dans la confiance, tout comme dans la foi religieuse. Alors, sans aller jusqu'à parler d'un pari comme Blaise Pascal, on doit admettre qu'il y a plus de désir que de connaissance dans la confiance. Je te fais confiance car je veux pouvoir te faire confiance. Et la chanson Can I Believe You s'achève justement sur ce lien entre confiance et désir. Can I Believe You? I want to need you. Bref, c'est vraiment un texte de chanson qui pose une question qui peut mener à l'angoisse. Hein? Est-ce que je peux avoir confiance en toi? J'ai peur. Mais Techno s'en sert comme tremplin vers la confiance, mais vers une confiance qui est lucide, mature. Puis, par ailleurs, le passage le plus émouvant, à mon avis, surgit lorsqu'il chante « Can I believe you when you say I'm good? » Alors, puis-je te croire quand tu dis de moi que je suis un homme bon? Alors, la question de la confiance en l'autre se retourne alors sur elle-même pour viser la confiance en soi. Alors, je n'ai pas vraiment confiance en moi, alors j'ai besoin de te faire confiance à toi quand tu me dis que je mérite d'être aimé. Alors, s'il y a un passage qui peut s'appliquer encore mieux à Dieu qu'à une autre personne humaine, c'est vraiment celui-là, hein, car la foi, au fond, c'est accepter le regard d'amour de Dieu sur nous. Et c'est pas si évident que ça en a l'air.
Jonathan Guilbeault, encore une fois, vous avez réussi à décrypter une chanson comme nul autre sait le faire. Merci beaucoup, Jonathan. Un grand merci pour cette chronique.
Un grand plaisir, Mathieu.
Alors, je rappelle que Jonathan Guilbeault est éditeur chez Novalis, blogueur sur le blog Les Carnets du Parvis et collaborateur aux pages débat de La Presse. Il nous présentait l'album Shore de Fleet Foxes. On écoute un second extrait de cet album, soit quelques secondes de la pièce. Et là, je vous dis, c'est la pièce qui, moi, personnellement, m'a plu davantage sur cet album. Donc, la pièce Sunblind. For Richard Swift, for John and Bill, for every gift lifted far before its will. Judy and Smith, for Berman too, I've met the myth hanging heavy over you. I loved you long, you rose to go. Songs, perfect angels in the snow. So time the stage, forget reserve. The type of great coronation you deserve. I'm going out for a weekend. I'm gonna borrow a Martin or Gibson with Idaho and the Hex for my book.
C'était votre épisode de Foi et Turbulence pour cette semaine. Un grand merci à mes invités, Dominique Laperle, Olivier Lefébure, Philippe Vaillancourt et Jonathan Guilbeault. Merci aussi à Daniel Fortin et Valérian Fournier à la régie. Je rappelle que cette émission est coordonnée et produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation Lucien Labelle et de la Fondation Adieu va. Je m'appelle Mathieu Lavigne. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine à l'émission, une table ronde sur l'actualité pilotée par le journaliste François Gloutenay. D'ici là, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM. À bientôt. Ah!